Notre conférencier de ce soir est Jean-Pierre Bourguignon, qui est né en 1947. Il est ancien élève de l'école polytechnique et docteur en sciences. Il est actuellement directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, qui est une fondation privée dédiée à la recherche fondamentale en mathématiques et en physique théorique. Il est aussi directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école polytechnique. Son parcours, je le dis très brièvement, il a été au CNRS. Il est devenu en 1986 professeur de mathématiques à l'école polytechnique. Depuis 1994, donc, il est directeur de l'Institut des hautes études scientifiques de Bures-sur-Yvette. Il est l'éditeur de plusieurs journaux scientifiques internationaux, auteur de nombreux articles dans des revues techniques, mathématiques, à comité de lecture. Et il a comme ouvrage, je mentionne ouvrage récent, le calcul variationnel Ellipse 2000, dont l'édition anglaise est à paraître chez Springer. Donc je lui donne la parole pour 50 minutes sur les espaces courbes, et ensuite vous pourrez poser des questions pendant une quinzaine de minutes. Merci, bonsoir.
Bonsoir. Donc, je voudrais vous parler ce soir d'espace courbe, qui est un sujet mathématique, même s'il a inspiré d'autres que des mathématiciens. Donc, je vous propose d'abord de vous montrer le plan que je compte suivre. D'abord, où se situe le problème des espaces courbes ? Il y a un problème sémantique tout autant qu'un problème de concept. Et en fait, historiquement, on a mis très longtemps, plusieurs millénaires dans l'histoire des mathématiques, avant d'avoir un concept bien défini d'espace courbe. Je voudrais passer quelques minutes à faire une fresque extrêmement rapide d'Euclide à Gauss, qui est un mathématicien qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, pour arriver au début du XVIIIe siècle à la création des nouvelles géométries, les premières qui montraient le phénomène de ce que sont les espaces courbes. Ce phénomène s'est amplifié au milieu du XIXe siècle, et dès la fin du XIXe siècle, il était possible d'utiliser les espaces courbes vraiment comme des outils pour donner de nouveaux modèles mathématiques à tout un tas de sujets extrêmement différents. Et enfin, je voudrais terminer par une présentation des développements les plus récents qui, comme vous le verrez, mélange des choses extrêmement différentes et nous rapproche d'autres sujets scientifiques. Alors peut-être, comme vous savez, les mathématiciens attribuent énormément d'importance aux définitions. Et quoi de mieux pour trouver des définitions que d'aller voir dans un dictionnaire ? Donc j'ai essayé pour espace courbe de regarder ce que disaient les dictionnaires, et j'étais un petit peu déçu, puisque le petit Robert, dans une très vieille édition, parle en ce qui concerne l'espace d'un lieu plus ou moins délimité où peut se passer quelque chose. Si on se réfère aux philosophes, au moins par respect par rapport à la personne qui m'a gentiment introduite, Emmanuel Kant dit très explicitement en ce qui concerne l'espace que l'espace est une forme a priori de la sensibilité extérieure qui porte déjà un poids un peu plus substantiel. Enfin, la version la plus récente du petit Robert quand même laisse entendre que l'espace est une chose qui s'est généralisée, puisque la définition du petit Robert est un milieu conçu par l'action de l'espace, excusez-moi, j'ai oublié d'écrire ordinaire, à trois dimensions. Donc il n'y a pas de doute que les mathématiciens ont fait des espaces un de leurs objets privilégiés. Ils en ont élargi le concept, ils en ont généralisé les définitions. Alors c'est en fait sur le mot courbe que je suis le plus déçu, parce que vous allez voir que ce qui va nous occuper pendant tout cet exposé, c'est vraiment d'essayer de concevoir ce que peut être un espace à plusieurs dimensions qui soit courbe en lui-même. Or justement, les définitions qu'on trouve dans les dictionnaires s'acharnent à nous dire que la notion de courbe est une notion qui n'a qu'une dimension. Donc le petit Robert donne comme définition de l'adjectif courbe qui change de direction sans former d'angle, donc on est vraiment dans des objets unidimensionnels, qui n'est pas droit. Et vous verrez que pour nous, le mot très important, ce sera qu'un espace courbe n'est pas plat, ce qui n'est pas la même chose que n'est pas droit. Mais malgré tout, d'autres personnes ont conçu des espaces courbes sans avoir besoin de définition, par exemple Vasarely, qui a proposé des espaces qui nous suggèrent indiscutablement qu'il se passe quelque chose dans la structure de l'espace qui le rend différent, et donc en particulier qui peut le rendre courbe. Et je pense qu'il n'est pas inutile de faire une citation de Julien Gracq, qui écrivait en 1961, « Alors, comme un enlisé qui lève la main frénétiquement hors du sable avant de consentir à sa nuit, il y avait encore des gens du monde pour contester passionnément, dans une crise de colère rouge, que l'espace fût courbe, comme le voulait Einstein, des préposés au balisage pour ricaner rageusement de la dérive des continents. » Donc il n'y a pas de doute que, y compris pour des écrivains, les espaces courbes existent. Donc si vous le permettez, je rentre dans ma première partie qui consiste à, disons, retrouver ce parrainage extrêmement important pour les mathématiciens d'Euclide. Donc un des livres les plus importants de l'histoire de l'humanité sont les éléments d'Euclide. Donc, comme vous savez, il n'existe plus aucune édition originale. En tout cas, dans les éléments d'Euclide, Euclide définit des éléments de géométrie, donc définit la géométrie de façon, comme on l'appelle aujourd'hui, synthétique. C'est-à-dire, pour lui, il existe, pour faire de la géométrie, des objets qu'on distingue, qu'on identifie, qui sont les points, qui sont les droites, qui sont les plans. Et ces objets existent en eux-mêmes. C'est, disons, le premier début dans les mathématiques d'une approche axiomatique dans laquelle les objets sont définis en eux-mêmes, sans penser trop, comme on le fera beaucoup plus tard, qu'en fait, les droites sont des collections de points ou les plans sont des collections de droites. Et en particulier dans les axiomes d'Euclide, pour définir la géométrie, apparaît un axiome extrêmement important qui a été l'objet d'une étude acharnée au cours de l'histoire, qu'on appelle l'axiome des parallèles. Et je l'ai cité ici comme un problème parce qu'effectivement, cet axiome des parallèles intervient dans les éléments d'Euclide pas tout à fait au début, donc après d'autres axiomes. Donc je vous rappelle ce qu'est cet axiome des parallèles, bien connu, élémentaire, consiste à dire que je prends un point P en dehors d'une droite delta, tout ça se passe dans un plan, eh bien l'axiome des parallèles affirme que par ce point, il existe une et une seule droite, que j'ai appelée delta prime, qui est parallèle à la première. Donc voilà cet axiome des parallèles. Et pourquoi est-ce qu'il a posé problème? Eh bien très tôt, les gens se sont inquiétés de son indépendance par rapport aux autres axiomes des éléments d'Euclide. Donc de savoir s'il n'était pas possible, en fait, de faire de cet axiome des parallèles, en fait, un théorème. Autrement dit, de pouvoir le déduire des autres propriétés qui étaient posées comme axiome auparavant. Et ça, ça donnait lieu à une recherche absolument passionnée, qui, en fait, n'a pas débouché, comme nous allons le voir, mais qui, malgré tout, a joué un rôle extrêmement important, comme un problème purement académique, mais qui a stimulé une recherche extrêmement féconde pour comprendre comment pourrait être faite des géométries dans lesquelles l'axiome des parallèles serait violé. Et en fait, pour Euclide, bien entendu, si cet axiome des parallèles était une conséquence des autres axiomes précédents, ça veut dire d'une certaine façon que cette géométrie telle que Euclide la définissait aurait donc une validité universelle qu'elle a eue pendant plusieurs millénaires. Donc, pendant très longtemps, le seul modèle possible de géométrie était la géométrie d'Euclide avec cet axiome des parallèles. Alors, pour quitter le monde euclidien et celui donc des droites et des points, je vous propose en fait de faire une petite promenade avant d'arriver dans les espaces, dans les espaces à une dimension. Autrement dit, je vais m'intéresser à une courbe que j'ai dessinée là de façon très simple. Et en fait, quels sont les outils qu'on a pour analyser une courbe? J'ai envie de la comprendre, j'ai envie de en fait la rendre plus simple. Alors la première idée qu'on peut avoir, puisque les outils géométriques qu'on a dans la géométrie d'Euclide, c'est quand même fondamentalement des droites, qu'est-ce qui pourrait, disons, simplifier la courbe? Eh bien, une première idée qu'on peut avoir, c'est évidemment pour cette courbe de lui trouver ses tangentes, autrement dit des droites qui passent par un point de la courbe et qui approximent la courbe du mieux possible au voisinage de ce point. Donc je vous ai dessiné ici deux droites tangentes à la courbe. Vous voyez bien que parce que la courbe est courbe, évidemment, elle s'éloigne de ses tangentes très régulièrement. Alors évidemment, dès qu'on a défini les droites, comme disons les courbes tangentes, donc qui sont des droites, on peut chercher d'autres courbes qui pourraient être intéressantes. Et dans l'arsenal euclidien, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve en particulier les cercles. Donc on peut s'intéresser, maintenant qu'on a fait des droites tangentes en un point, enfin, quand la courbe est régulière, on a évidemment une seule tangente en un point, on peut chercher des cercles qui sont eux-mêmes tangents à cette courbe. Alors vous voyez, je vous ai dessiné un très petit cercle qui est tangent, je vous ai dessiné un très grand cercle qui est tangent, et quand on regarde bien la situation, pour le petit cercle, il est tout entier d'un côté de la courbe, et pour le très grand cercle, il est tout entier d'un autre côté. Et alors ça, si on commence à avoir un petit sens mathématique, Alors évidemment, ces cercles, ils ont une propriété importante, c'est qu'ils sont tous centrés sur la normale à la courbe au point où on les considère. Autrement dit, ils sont tous centrés sur une courbe qui est une droite, pardon, qui est perpendiculaire évidemment à la tangente. La normale est perpendiculaire à la tangente. Et alors du coup, pour revenir à mes cercles, vous voyez que s'il y en a un qui est tout entier d'un côté, un autre tout entier de l'autre, ça donne vraiment l'idée qu'il y a un moment où il doit se passer quelque chose. Il y a un moment où le cercle passe d'un côté à l'autre. Et la façon dont il passe de l'un côté à l'autre, en général, est une façon extrêmement intéressante. C'est ce qu'on appelle le cercle osculateur. Et donc ce cercle osculateur, il a la propriété qu'au moment où on arrive à ce cercle osculateur, ça n'est pas vrai avant, ça n'est pas vrai après, le cercle a la propriété que d'un côté, il est dedans, la courbe, et de l'autre côté, il est de l'autre côté. Autrement dit, à cause d'un contact extrêmement fort avec la courbe, pour ce cercle très spécial, qui est lui aussi centré sur la normale, excusez-moi, mon empilement donne une idée un peu fausse, mais il est bien aussi son centre est aussi sur la normale, j'ai donc un cercle très particulier, qu'on appelle le cercle de courbure en ce point de la courbe, qui a cette propriété d'épouser la courbe encore mieux que tous les autres cercles. Et évidemment, le rayon de ce cercle va jouer un rôle très important, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure de la courbe en ce point-là. Donc vous voyez que pour une courbe, quand on commence à l'analyser, on a vu qu'avec les tangentes, on pouvait faire un certain nombre de choses, mais ce n'était pas très riche. Il y a une analyse plus fine qui vient de l'utilisation de ce qu'on appelle les cercles de courbure, donc qui ont un rayon de courbure. Donc vous voyez que pour une courbe bleue, en chaque point de cette courbe, on peut lui associer un nombre bien particulier qui est justement ce rayon de courbure. Alors évidemment, il y a des points particuliers. Vous voyez que cette courbe passe d'une concavité dans un sens à une concavité dans un autre. Et évidemment, il arrive un point qu'on appelle un point d'inflexion sur la courbe où brusquement, eh bien, le rayon de courbure devient infini. Autrement dit, le centre du cercle est rejeté à l'infini. Donc juste quand on passe de ce régime-là à ce régime-là, on trouve un point d'inflexion. Alors ça va être vraiment l'analyse de base qu'on va utiliser pour essayer de comprendre ce qui nous intéresse, qui ne sont pas des objets à une dimension comme les courbes, qui sont des objets à deux dimensions. Donc je passe maintenant à l'étude d'une surface. Et donc l'étude d'une surface, je vais partir d'un bout de surface, très très bête. Évidemment après j'essaierai d'aller dans des espaces à plus de dimensions, mais commençons par des choses concrètes. Donc j'ai une surface et je veux l'analyser. Alors, quelle idée on peut avoir? Bien, l'idée la plus simple qu'on puisse avoir pour analyser la surface, c'est de se dire, c'est un objet à deux dimensions, c'est trop compliqué, essayons de le ramener à une dimension. Et comment peut-on faire? Bien, une façon de le faire, c'est tout simplement de la couper par un plan. On revient encore à l'idée euclidienne que les objets simples, c'est les droites, les plans. Donc, on va prendre un plan, et alors on ne va pas prendre le plan tout à fait n'importe comment, on va prendre le plan en un point de la surface, telle sorte qu'il contienne la normale à la surface. Oui, bien que si je prends une surface, les objets les plus simples, si je reprenais le principe que j'ai développé tout à l'heure, d'approximer une droite par une tangente, eh bien pour une surface qui va approximer la surface, c'est un plan tangent, je ne l'ai pas dessiné ici pour éviter de surcharger le dessin. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement, je vais prendre cette fois la droite qui est perpendiculaire au plan tangent, donc qui est une droite normale, et je vais m'intéresser à tous les plans qui contiennent les droites normales, et je vais faire pivoter ces plans. En tout cas, quand j'en prends un, comme ce plan P, qui est un plan normal, eh bien, évidemment, ce plan va me faire apparaître une courbe, qui est l'intersection du plan et de la surface. Et alors, pour cette courbe, il n'y a pas de doute, puisque, comme je vous l'ai expliqué, en tout point d'une courbe, j'ai un invariant extrêmement important, qui est le rayon de courbure. Donc, je peux m'intéresser, pour cette courbe, à son rayon de courbure. Et donc, vous voyez que quand je m'intéresse à la surface S, si je prends un plan normal, associé à ce plan normal, je peux associer le rayon de courbure dans ce plan. Alors il se trouve que les mathématiciens ont préféré, plutôt que de travailler avec le rayon de courbure, travailler en fait avec l'inverse du rayon de courbure, qui est tout autant un nombre que R est un nombre, qu'on appelle KP, qui est la courbure, donc qui est l'inverse de ce plan. Donc pour moi, la courbure dorénavant va être l'inverse du rayon de courbure. Et donc, la chose importante maintenant, c'est que, ben, évidemment, mon objet, il est à deux dimensions. Quand je prends un plan P normal, je trouve un rayon de courbure, mais quand je change le plan, quand je le fais pivoter autour de la normale, eh bien, évidemment, que le rayon de courbure, et donc la courbure, change. Et donc là, on tombe sur cette situation un peu embêtante, où pour caractériser la géométrie de la surface en un point, le point P, eh bien, brusquement, je me retrouve avec beaucoup d'informations, c'est-à-dire toutes les données de toutes ces courbures pour tous les plans normaux. Ça, ça fait vraiment beaucoup d'informations. Et alors, du coup, pour être sûr de les comprendre, les mathématiciens ont essayé justement de voir si cette information, on ne pouvait pas l'organiser de façon mathématique simple. Et en fait, ils y sont arrivés. Donc ça, c'est les travaux de Meunier et de Gauss qui ont montré qu'en fait, quand on fait tourner le plan normal autour de la normale, eh bien, en fait, la dépendance du rayon de courbure ou de la courbure était en fait beaucoup plus simple que ce qu'on croyait. Et au lieu d'être une collection infinie de nombres, ces nombres s'organisaient comme une quantité extrêmement simple, qu'on appelle, en termes un peu savants, la seconde forme fondamentale de la surface, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, que cette quantité oscillait entre deux quantités, un maximum et un minimum, et que, en fait, les plans pour lesquels ce maximum et ce minimum étaient atteints étaient en fait perpendiculaires l'un avec l'autre. Et ça, pour des raisons mathématiques tout à fait profondes. Autrement dit, pour bien comprendre la géométrie de la surface, il suffisait, en un point donné de cette surface, de connaître, en fait, ce maximum et ce minimum, et les deux plans pour lesquels ce maximum et ce minimum étaient atteints. Et alors, en fait, le théorème fondateur de la notion d'espace courbe est un théorème dû à Carl Friedrich Gauss, mathématicien, comme je l'ai dit, qui a vécu entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, qui est ce superbe théorème qu'il a appelé lui-même le Theorema Egregium de Carl Friedrich Gauss, qui dit la chose suivante. Quand je prends le produit de ces deux nombres, qui sont la courbure maximum atteinte pour un plan et la courbure minimum atteinte pour un plan perpendiculaire, eh bien cette quantité, elle est, comme on dit, intrinsèque. Autrement dit, j'aurais pu la trouver, le produit de ces deux nombres, j'aurais pu le trouver sans utiliser du tout les plans normaux, les rayons de courbure, etc. Mais en fait, elle est accessible à des mesures faites uniquement sur la surface. Autrement dit, par rapport à ma surface originelle, quand je suis parti de ma surface, vous avez vu que pour arriver à définir la courbure maximum ou la courbure minimum, j'étais contraint d'aller chercher des choses dans la direction normale, de tracer des cercles de courbure, etc. Gauss affirme que, en fait, en ce qui concerne le produit de ces deux nombres, le maximum et le minimum, eh bien, en fait, j'aurais pu le comprendre directement en vivant sur la surface. Et je montrerai comment plus tard. Donc, si vous voulez, c'était la première fois qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'accessible, de compréhensible, en vivant uniquement sur la surface, en vivant à deux dimensions, sans aller chercher la forme de la surface dans un espace plus grand. Donc c'est ça l'idée fondamentale d'un espace courbe, c'est un espace dans lequel sa géométrie interne va être telle qu'elle va être compliquée par rapport à la géométrie euclidienne habituelle, parce qu'un certain nombre de quantités qu'on peut calculer localement, en se promenant dans cet espace, vont vous dire que les choses auxquelles on est habitué dans l'espace euclidien ne marchent pas. Donc c'est là qu'on est à la porte de la création de nouvelles géométries. En fait, pour Gauss, qui donc a établi ce théorème, ce qui est extraordinaire chez Gauss, sa devise était « pauca sed matura », peu de choses, mais des choses mûres. Donc il a démontré ce théorème à une certaine date et il a publié sa démonstration 25 ans plus tard, parce qu'il n'était pas content de sa première démonstration, et donc il a attendu d'avoir une démonstration qui le satisfasse. En fait, entre-temps, ou pas tout à fait, en tout cas, l'article où ces choses sont publiées, donc cet article de Gauss, je ne sais pas si c'est tout à fait lisible, donc il s'appelle « Les discussions générales sur les courbes tracées sur les surfaces », donc il y a ce texte merveilleux de Gauss, dans lequel ce théorème est démontré. Et donc on est à l'aube de la naissance de nouvelles géométries, qui ont été pressenties par Gauss, il ne les a pas vraiment définies lui-même. Elles ont été découvertes à la fois par un mathématicien vivant à Kazan, qui s'appelle Nicolas Blobachevski, et un jeune officier hongrois qui s'appelle Janos Bolyai, et qui tous les deux, de façon indépendante, ont découvert vraiment que la géométrie euclidienne n'était pas du tout la seule géométrie possible. Et en fait, Gauss, qui était lui-même destinataire de courriers aussi bien de Lobachevski et de Bolyai, spécialement de Bolyai, qui était le fils d'un vieil ami de Gauss, Wolfgang Bolyai, mathématicien professionnel lui, Bolyai étant un jeune officier qui s'ennuyait dans son école d'officier, donc qui faisait des mathématiques, comme Napoléon, d'ailleurs, s'ennuyant à son école d'officier. Et donc, j'aurais pas dû dire Napoléon, j'aurais dû dire Bonaparte, pardon. Ces nouvelles géométries, donc, chez Lobachevski, ont été publiées dans un livre qui s'appelle « Recherche géométrique sur la théorie des droites parallèles », puisqu'évidemment, ces nouvelles géométries vont violer l'axiome des parallèles. Ou alors, dans le cas de Boyaï, c'est paru dans un, en fait, dans un appendice d'un article de son père, qui est donc un article dans lequel il explique qu'il a montré qu'il y a l'axiome numéro 11 d'Euclide est en fait faux, et donc il montre comment ces nouvelles géométries sont nées. Donc ce que je propose de faire maintenant, si vous voulez, c'est de présenter ces géométries modèles rapidement. Vous verrez qu'elles sont extrêmement concrètes, en fait, et donc on peut en fait les saisir tout à fait bien. Donc peut-être pour bien comprendre en quoi elles sont originales, il est utile de revenir à la géométrie euclidienne. Et la géométrie euclidienne, donc je vais la présenter dans le cadre du plan, j'aurais pu la présenter dans le cadre d'un espace à plus de dimensions, mais en tout cas dans le cadre du plan, la figure fondamentale de la géométrie euclidienne, comme on l'a tous appris à l'école, c'est la figure du triangle. Donc je prends trois points A et B, C, que je rejoins par des segments de droite, qui sont les plus courts chemins dans le plan. Et évidemment, ça me dessine aussi un triangle, autrement dit trois angles, que j'ai appelé alpha, beta, gamma, en fonction des noms que j'ai donnés au sommet, grand A, grand B, grand C. Et alors, un des théorèmes fondamentaux de la théorie de la géométrie euclidienne, mais qui est directement lié à l'axiome des parallèles, évidemment, le fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, les mathématiciens préfèrent utiliser les radians, donc en fait pi radian. Et que tous les calculs de la géométrie du triangle se font avec une seule formule de trigonométrie bien connue, qui est que la carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des côtés adjacents, moins deux fois le double produit de ces côtés par le cosinus de l'angle opposé au côté qu'on mesure, qui évidemment redonne le théorème de Pythagore quand l'angle vaut un angle droit, puisque le cosinus vaut à ce moment-là zéro. Donc voilà ce qu'est la géométrie euclidienne et ce qui permet de la comprendre, de la développer dans toute généralité. Alors la géométrie, en fait, paradoxalement, on connaissait depuis très longtemps une géométrie non euclidienne, mais personne n'avait imaginé que c'était de la penser comme une géométrie. C'est ça qui est la chose extraordinaire. C'était un outil fondamental pour les astronomes qui regardaient la voûte céleste et qui voulaient comprendre la voûte céleste, mesurer les distances entre les astres, et qui avaient développé des outils extrêmement sophistiqués pour comprendre la position des astres, l'astre, l'analyser dans la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie sphérique, mais la chose étonnante, qui est bien entendu, elle était connue bien avant Lobachevsky, Gauss ou Boyaï, mais elle n'était pas conçue comme une géométrie. Alors comment doit-on penser la sphère, j'ai pris ici une sphère de rayon 1, pour la concevoir comme une géométrie? Eh bien évidemment, je dois me donner, si je me donne trois points sur la sphère ABC, je dois me donner l'analogue des côtés du triangle, je dois me donner l'analogue des plus courts chemins. Si vous avez fait un tout petit peu de navigation, vous savez que le plus court chemin sur la sphère, autrement dit sur la Terre, c'est effectivement les grands cercles. Autrement dit, ce qui va remplacer les segments de droite de la géométrie euclidienne vont être des arcs de grands cercles de la sphère. Donc j'ai pris mes trois points, j'ai pris mes arcs de grands cercles, et évidemment, de la même façon que dans le triangle, dans le plan euclidien, j'avais effectivement trois angles, je peux m'intéresser à des triangles sphériques, qui sont donc des triangles dont les côtés sont des arcs de grands cercles, et avec des angles alpha, bêta, gamma. Et alors la chose extrêmement importante, pas complètement évidente, mais pas très difficile à démontrer, c'est que si je fais la somme des trois angles alpha, bêta, gamma, eh bien je trouve de nouveau pi radian plus quelque chose qui est exactement l'aire du triangle ABC. Autrement dit, voilà une géométrie dans laquelle la somme des angles d'un triangle ne fait pas 180 degrés ou pi radian, mais fait plus. Et en fait, on sait le calculer exactement. Petit exercice pour vous occuper jusqu'à la fin de la conférence, si vous vous ennuyez, d'établir cette formule. Et en fait, avait été développé historiquement, avec un grand succès pour l'astronomie, un calcul qui permettait, comme on sait résoudre les triangles dans le plan, en connaissant trois éléments bien choisis, on trouve tous les autres éléments d'un triangle. Dans la sphère, c'est la même chose. Quand on connaît trois éléments, on sait connaître tous les autres éléments. Et le calcul qui permet de faire ça, c'est ce qu'on dit une trigonométrie, qu'on appelle la trigonométrie sphérique. Alors, en fait, dans la sphère, qu'est-ce qui fait que l'axiome des parallèles est violé? Disons, c'est vraiment très très bête. C'est tout simplement que, si je prends la sphère, une bonne raison pour violer l'axiome des parallèles, c'est que si je prends toutes les droites de cette géométrie, autrement dit mes grands cercles, qui partent d'un point P, ils ont le mauvais goût de tous se recouper au pôle, si ça c'est le pôle nord, ils se recoupent tous au pôle sud. Donc voilà des droites. Donc je n'arrive jamais à faire des droites parallèles, puisque quand je pars d'un point et que je prends une droite, droite voulant dire un grand cercle, eh bien, elle revient en ce point-là où on recoupe au pôle opposé. Donc, il n'y a jamais moyen de dessiner des parallèles. Donc, évidemment, quand je veux regarder l'axiome d'Euclide qui me dit « prenons une droite, donc un grand cercle, prenons un point extérieur », l'axiome d'Euclide me dit « il existe une et une seule parallèle, sur la sphère, il existe zéro parallèle ». Donc, l'axiome est indiscutablement violé. Une autre chose qui est quand même très intéressante dans cette géométrie, que je voudrais vous faire sentir, c'est la propriété suivante, qui est tout à fait importante. Imaginons que moi, je me suis au point P et je dirige mon regard un petit peu dans toutes les directions à partir de ce point-là. Donc, diriger mon regard, ça veut dire évidemment que j'ai un trajet lumineux qui va suivre un plus court chemin, donc un grand cercle. Donc, j'imagine que l'espace dans lequel je vis, c'est un espace qui est la surface d'une sphère. Eh bien, évidemment, ce chemin lumineux, il va suivre, si je pars dans la direction bleue, il va suivre le grand cercle bleu, si je pars dans la direction violette, le grand cercle violet, etc. Alors, vous voyez bien que j'ai la propriété que moi, si je m'intéresse à ce qui se passe en ce point pôle sud, le point Q, eh bien, le point Q, je le vois dans toutes les directions. Donc, ce qui était pour moi un point en géométrie euclidienne, quand je pointe quelque chose, quand je regarde dans une direction, il n'y a qu'une façon d'attraper un point dans l'espace euclidien. Ici, sur la sphère, on a le phénomène extraordinaire que, quelle que soit la direction dans laquelle je regarde à partir du point P, je vois toujours le point Q. Donc, d'une certaine façon, pour moi, le point P, ce n'est pas un point. Si je veux le représenter du point de vue de ma vision, c'est vraiment un cercle. Puisque, quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, je vois le point. Donc, vous voyez, ça, c'est très, très dérangeant. Et en fait, c'est tout à fait analogue à des choses qu'on trouve dans le manifeste du cubisme de Gleize, qui est un peu une revendication de la nécessité de regarder les choses dans plusieurs directions à la fois. Donc ça, c'est une peinture de la Tour Eiffel de Delaunay, qui est une des représentations cubistes de la Tour Eiffel, dans lesquelles on voit effectivement trois côtés. Alors c'est facile de vous convaincre que sur une géométrie sphérique, on voit effectivement plusieurs côtés à la fois, beaucoup plus que dans la géométrie euclidienne. Donc ça a été exploité, disons, par les peintres cubistes. Alors j'en viens donc à la géométrie qui était vraiment la création ou l'invention, je ne sais pas ce que je dois dire, sinon, sauf à rentrer dans un débat philosophique dans lequel je ne veux pas rentrer maintenant, de Lobachevsky et de Boyaï, qui était donc celle de la géométrie hyperbolique. Alors, on a mis pas mal de temps pour cette troisième géométrie, donc inventée découverte par Boyaï et Lobachevsky. Et alors, je vous en donne un modèle qui n'est pas celui qui était utilisé par Boyaï et Lobachevsky, qui est celui qu'on appelle souvent le modèle de Beltrami, qui consiste à penser que l'espace, c'est l'intérieur d'un disque. Donc, vous voyez, mon dessin ressemble au dessin de la sphère, mais je le pense en termes radicalement différents. Pour moi, l'espace, c'est l'intérieur de ce disque que je vois comme un disque plat de rayon 1. Et donc maintenant, il faut que je vous dise ce que sont mes plus courts chemins, ce que sont l'analogue des droites de la géométrie euclidienne. Eh bien, l'analogue des droites, ça va être des cercles euclidiens qui coupent le cercle bord du disque à angle droit. Donc, ce qu'on appelle en géométrie donc les cercles orthogonaux au cercle de rayon 1. Alors, vous voyez, mon espace, c'est l'intérieur du disque, mais je ne vais pas jusqu'au bord. Donc, voilà, je vous ai tracé deux plus courts chemins, deux droites de cette géométrie hyperbolique. Et alors, évidemment, dans cette géométrie hyperbolique, je vais faire la même chose que dans les autres géométries. Je vais m'intéresser au triangle élémentaire et regarder ce qui se produit. Et alors, attention, la façon de mesurer les distances ne va pas être tout à fait la façon habituelle. Donc, comme d'habitude, dans mon espace, qui est donc l'intérieur de ce disque, je prends trois points ABC. Et je les relie par des plus courts chemins, autrement dit par des cercles orthogonaux au cercle de rayon 1. Et donc, je trouve mes trois côtés. Et à partir du moment où j'ai mes trois côtés, j'ai évidemment mes trois angles. Et il se trouve que la mesure des angles continue à être la mesure des angles ordinaires. Alors qu'attention, dans mon espace à l'intérieur du disque, la façon de mesurer les distances n'est pas comme la mesure habituelle euclidienne, comme je le montrerai dans une minute. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est toujours ma géométrie des triangles. Et donc, quand je fais la somme de ces trois angles, je trouve, pi, c'est rassurant, mais moins rassurant, je trouve que je dois retrancher un terme qui est en fait une aire, dans un sens bien compris, du triangle ABC. Et avec le fait extraordinaire que si vous vous amusez à éloigner le sommet A vers le bord, à éloigner le sommet B vers le bord, à éloigner le sommet C vers le bord, qui veut dire en fait que je m'en vais à l'infini dans cette géométrie-là, eh bien vous voyez que mes deux cercles qui vont me servir à définir les côtés du triangle ABC, ils vont être de plus en plus tangents l'un à l'autre. Parce que vous voyez bien, les deux points où ils vont couper le bord, ici, vont être de plus en plus proches. Donc, en fait, ces deux cercles vont faire un angle de plus en plus petit. Donc, vous avez cette situation en particulier dans la géométrie hyperbolique, que vous avez des triangles dont la somme des angles vaut pratiquement zéro, en tout cas aussi petite qu'on veut, Et en particulier, ça vous dit aussi qu'il y a des que dès que vous voulez dessiner un triangle dans géométrie hyperbolique, puisque ça, c'est quand même une somme de nombres positifs, c'est une somme d'angles, vous ne trouvez jamais des aires, au sens où je l'ai dit, de ces triangles qui sont plus grandes que pi. Donc c'est une géométrie qui a la particularité que, aussi loin que je vais, quand je trace un triangle, je ne lui trouve jamais une aire plus grande que pi. C'est quand même une géométrie surprenante. Et alors, il y a aussi un calcul associé, qui est une trigonométrie hyperbolique. Pour vous faire sentir les problèmes de mesure de métrique, je vous donne un dessin qui a été repris d'un livre de Coxeter. Et donc, il faut que vous vous persuadiez que les éléments en blanc et noir sont tous isométriques. Autrement dit, c'est la même chose que le cas d'égalité des triangles de la géométrie euclidienne, où vous prenez un triangle et vous pouvez le superposer à un autre métriquement. En fait, les triangles blancs et les triangles noirs sont superposables métriquement, c'est-à-dire la façon dont la notion de distance est définie dans cette géométrie fait que ce triangle blanc a la même dimension que ce triangle blanc-là, mais par le fait que je me suis approché du bord, eh bien, par rapport à ma notion habituelle de distance, les distances deviennent de plus en plus grandes, en fait. Autrement dit, quand je me rapproche infiniment du bord, j'ai en fait, c'est pour ça que je me rapproche de l'infini, donc la même image isométrique de ce triangle va devenir infiniment petite dans la géométrie euclidienne habituelle. Alors, exploité par Escher, ça devient ce dessin-là. Pas inintéressant. Alors, en fait, la grande généralisation, qui était vraiment le pas extraordinaire, a été la généralisation qui a été faite par Bernard Riemann, un des mathématiciens les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Extraordinaire pour tout un tas de choses, parce qu'il a d'abord touché à peu près à tous les sujets des mathématiques. Pas seulement au sujet des mathématiques, mais aussi à la mécanique ou à la physique, et que par ailleurs, sa vie a été très brève, il est mort, je crois, à 41 ans, et après une très longue maladie, une tuberculose qui l'a affaibli pendant au moins 10 ans de sa vie. Donc vous imaginez ce que ça veut dire que la vitesse à laquelle il a travaillé. Et alors, le texte extraordinaire que Riemann a écrit, qui a changé la géométrie, qui est donc ce qui a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie riemannienne, qui est donc la géométrie des espaces courbes, dans un sens le plus général. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'était même pas un travail de réflexion très prolongé, c'était en fait sa leçon d'habilitation. Le système allemand, comme le système français dans le passé, a un système où un jeune chercheur doit présenter ses travaux, mais aussi proposer trois sujets, pas dans sa spécialité, qu'un jury de soutenance choisit parmi ces trois sujets, 15 jours avant la soutenance, un des trois sujets. Et donc, Riemann, en 1854, quand il a défendu son habilitation, Gauss était dans le jury, c'était peu avant le décès de Gauss d'ailleurs. Gauss a choisi dans la liste des trois sujets proposés par Riemann un sujet qui s'appelle donc sur les hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée, texte extraordinaire qui n'a pas été publié d'ailleurs du vivant de Riemann, qui a été publié seulement en 1869. Et donc il a créé une nouvelle géométrie. Quelle est l'idée de cette géométrie? C'est les seules formules mathématiques que j'écrirai, si vous pouvez me pardonner ça. Donc c'était l'idée suivante, c'était de dire, voilà, je vais m'intéresser à une géométrie dans laquelle je vais prendre des courbes, comme ma courbe bleue. Donc je vais d'un point P, qui est le point sur la courbe à l'instant 0, je vais au point Q, qui est le point sur la courbe à l'instant 1, et puis évidemment, en cours de temps, j'ai un point gamma de T, et je peux regarder la vitesse de mon paramétrage là, en ce point-là, que j'ai écrit d gamma sur dt. Et donc l'idée de Gauss, c'est de prendre une notion de longueur des courbes qui, en fait, va dépendre du point où on calcule. La chose extrêmement importante, c'est que la valeur par laquelle je calcule la longueur du vecteur vitesse, donc je calcule cette longueur ici, eh bien, dépend du point où je calcule. Autrement dit, on a une notion de longueur qui varie avec le point. Et donc ça, c'est vraiment l'idée complètement novatrice. Autrement dit, quand j'écris l'élément de longueur, donc ça, c'est par rapport à des éléments infinitésimaux le long de la courbe, eh bien, les coefficients qui me permettent de mesurer cette longueur dépendent du point où je le calcule. Donc on a une géométrie, disons, qui est avec une géométrie des longueurs variable. Alors évidemment, ce qu'il a dû faire, ça a été de retrouver tout ce qu'on avait utilisé jusqu'à maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je prenais des points, je cherchais des plus courts chemins. Et donc, il a trouvé l'équation des plus courts chemins, qu'on appelle l'équation des géodésiques, équation un peu compliquée, qui consiste à trouver les courbes d'accélération nulle dans cet espace, et en fait les coefficients qui permettent de définir ces accélérations sont complètement déterminés par les coefficients de la métrique. La chose la plus importante, je ne veux pas vous déranger avec ces formules, c'est que là ça va nous permettre d'expliquer en particulier ce que je disais tout à l'heure à partir de... Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la surface S, et que le théorème Egregium vous disait que la courbure, le produit de K-max par K-min, ça pouvait se calculer en vivant complètement sur la surface. Et bien voilà comment on fait. Et donc ça, avec la géométrie de Gauss, c'est complètement limpide. Je pars de mon point P, je vais dans toutes les directions à la distance petit r. Donc vous voyez, j'ai tracé tous mes chemins de longueur r à partir de P. Ça me fabrique quelque chose qui, en géométrie euclidienne, serait un cercle. Donc je trace cette courbe rouge, qui est donc tous les points qui sont à distance petit r du point P. Et à ce moment-là, puisque j'ai ma géométrie euclidienne et géométrie riemannienne, cette géométrie de Riemann, je peux calculer la longueur de ce cercle. Et là, la bonne ou la mauvaise surprise, comme vous voulez, c'est que je trouve, la mesure que je devrais trouver, c'est 2π fois le rayon, si j'étais en géométrie euclidienne. Donc j'ai un terme correctif qui est 1 sixième de la courbure en ce point-là multipliée par le cube de la distance. Donc vous voyez que brusquement, en mesurant la longueur des points qui sont à la distance petit r du point P, je suis capable de détecter la courbure qui est centrée en ce point-là. Vous voyez que le coefficient Kp qui apparaît ici, c'est justement la courbure au point P. Et ça, c'est accessible à des êtres qui vivent uniquement sur la surface. La seule chose que j'ai fait, j'étais en mon point P, je suis allé dans toutes les directions à la distance petit r, j'ai trouvé toute une courbe, j'ai mesuré la longueur de cette courbe, et le terme correctif par rapport à la mesure euclidienne me donne la courbure. Donc vous voyez, c'est ça la chose fondamentale, complètement comprise par Gauss. Et en fait, la chose que Gauss a faite, c'est qu'il a donc introduit l'élément de mesure de la courbure. Alors cet élément est un élément mathématique très compliqué qu'on appelle le tenseur de Riemann-Christoffel. Je ne vais pas vous assommer avec lui. Et en particulier, la fonction de ce tenseur de Riemann-Christoffel, c'est qu'il mesure la déviation à la platitude. Autrement dit, quand je suis dans un espace plat, autrement dit un espace euclidien, le tenseur de Riemann-Christoffel, cet invariant introduit par Riemann, vaut 0. Et alors, comme toujours, quand on a une généralisation, la chose importante, c'est que cette généralisation de Riemann englobe la géométrie euclidienne. Je vous ai dit comment, parce que à ce moment-là, le tenseur de Riemann-Christoffel valait 0. La géométrie sphérique, à ce moment-là, le tenseur de Riemann-Christoffel est constant d'une certaine façon et vaut 1. Et la géométrie hyperbolique, le tenseur de Riemann-Christoffel est constant et vaut moins 1. Autrement dit, toutes les géométries précédemment introduites sont des cas particuliers de la géométrie de Riemann. Toujours pour avoir une petite illustration et peut-être pour vous faire souffler, une autre illustration donc, de Vasarely qui est des représentations de plus courts chemins dans les espaces dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont, disons, plutôt des courbures négatives, plutôt des courbures positives. Alors, comme je vous ai dit, tout ça est vraiment important parce que ça donne aux mathématiciens brusquement de nouveaux exemples, de nouveaux modèles. Et alors, évidemment, l'exemple le plus célèbre où on parle d'espace courbe, comme le rappelait Julien Gracq, c'est justement dans le cadre de la théorie de la relativité. Alors, je ne veux pas détruire la conférence d'un de mes collègues, plus professeur à l'Institut des études scientifiques, Thibaut Damour, donc je vais être très discret sur la relativité générale, mais quand même, je dois bien en dire quelque chose. Donc, effectivement, la relativité générale est ce saut conceptuel extraordinaire qui consiste à comprendre que la théorie de Newton n'est pas suffisante pour comprendre la gravitation, et qu'en fait, on peut rendre compte des effets gravitationnels d'une façon complètement radicalement nouvelle, en disant en fait que c'est purement des effets géométriques, que en fait, l'espace dans lequel on vit, par la présence des masses, acquiert une courbure, parce qu'il a une géométrie plus compliquée que ce qu'on croit d'habitude. Et donc, en fait, les plus courts chemins sont en fait des mouvements en chute libre. Et puisque cet espace est courbe, les mouvements en chute libre ne vont pas être du tout les mouvements auxquels on est habitué. Ça va être plutôt quelque chose qui va ressembler aux trajectoires sur la sphère. Et donc, en particulier, on a ce phénomène extraordinaire que la lumière dévie, que les étoiles massives dévient la lumière, d'où le phénomène extrêmement important, qui était un des tests de la relativité générale, que quand on a une éclipse de soleil, quand on repère les rayons lumineux venant au bord du soleil, eh bien, si on les a repérés d'où ils venaient par rapport à la position habituelle du ciel, à cause de leur passage extrêmement près du bord du soleil, le soleil étant une étoile massive, eh bien, les rayons vont être déviés. Un autre effet qui, lui, est plus récent et qui est lié à la présence d'étoiles extrêmement massives est ce qu'on appelle les phénomènes de lentilles gravitationnelles. Donc, vous en avez quelques-uns ici. J'espère qu'on les voit. Oui, on les voit pas trop mal. Donc, vous voyez ce qui se passe. Bon, bien sûr, il y a des choses qui sont simplement des galaxies qui ont des formes de spirales, de choses de ce genre-là. Mais les choses qui m'intéressent, moi, c'est pas ça. Ça, c'est une photo qui est prise à partir du télescope Hubble. c'est des choses qui sont des traînées de ce genre, vous voyez, qui sont des arcs. Mais le phénomène qui est là, c'est un phénomène complètement analogue à ce phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure. Quand je regardais le pôle nord depuis depuis le pôle nord, je vous ai dit qu'en fait, quelle que soit la direction dans laquelle je regardais, je voyais partout le pôle sud. Et qu'en fait, donc pour moi, l'image du pôle sud, ce n'est pas un point, mais c'est un cercle. Eh bien là, c'est la même chose. J'ai une étoile qui est loin, dont les rayons passent très près d'étoiles massives, et ces étoiles sont tellement massives qu'elles dévient tellement les rayons lumineux qu'on a un phénomène complètement analogue à ce phénomène que j'ai indiqué sur la sphère. Autrement dit que, brusquement, au lieu d'avoir une image de l'étoile, j'ai en fait tout un trait qui représente tous les rayons venant, parce que ces rayons ont été déviés, et finalement ils reviennent vers moi parce qu'ils sont déviés par des étoiles qui se trouvent entre l'étoile qui émet la lumière et moi. Donc ce phénomène est évidemment extrêmement important. Alors évidemment, parmi les modèles tout à fait importants, et une chose peut-être un peu surprenante, mais comme vous avez compris que j'ai un petit penchant pour la peinture, un des objets importants chez les mathématiciens, qui a été repéré très très vite comme un objet mathématique important, est l'espace des couleurs. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors au moment où cette théorie d'espace des couleurs a été développée, en fait c'était une chose qui était vraiment originale. Aujourd'hui elle est devenue banale avec l'utilisation des téléviseurs. On sait bien que pour faire toutes les couleurs dans un téléviseur, eh bien on est amené tout simplement à superposer trois couleurs élémentaires. Et du coup ça donne l'idée que finalement quand on veut regarder ce que c'est que intrinsèquement une couleur, comment, si on veut discuter de couleurs, finalement j'aurais besoin seulement de trois paramètres. Alors en fait, si on réfléchit un tout petit peu plus, la couleur, ça a aussi une sorte d'intensité. Et donc quand on veut vraiment s'intéresser à la nature de la couleur, ce qui est vraiment pour le peintre la chose importante, c'est pas seulement l'intensité, c'est vraiment la nature de la couleur, on peut normaliser cette intensité. Donc vous voyez que finalement, les trois paramètres qui étaient les coefficients que je devais mettre devant mes trois couleurs élémentaires que je superpose pour fabriquer ma couleur finale, eh bien, se ramènent en fait à un espace à deux dimensions. Alors pour vous montrer que ces idées remontent à très longtemps, je voudrais faire un peu de publicité pour un scientifique absolument extraordinaire, je crois peut-être le dernier savant universel que le monde ait connu, qui s'appelle Helmholtz, qui a commencé sa vie comme un médecin, et on lui doit énormément de l'instrumentation de l'ophtalmologie, qui finalement, quand il avait, je crois, un peu plus de 50 ans, a commencé à faire un peu de physique, parce qu'il s'ennuyait, il n'avait jamais eu envie d'être médecin en fait. Et puis, je crois qu'Humeur, quand il a passé 60 ans, l'a convaincu qu'il fallait quand même qu'il s'intéresse un peu aux mathématiques. Et donc, il s'est intéressé un peu aux mathématiques. Et donc, en particulier, il s'est intéressé à l'espace des couleurs, donc « Nämlich das System der Farben ». Donc, il s'intéresse à l'espace des couleurs. Et alors, cet espace des couleurs a été maîtrisé par un certain nombre de gens. Donc, on y a défini dessus des notions de distance. Et donc là, par exemple, voici l'analogue des fameux petits cercles que j'avais dessinés tout à l'heure, hein, qui étaient ces cercles à égale distance d'un point donné. Donc vous mettez dans la couleur qui est juste ce point-là, dans mon espace à deux dimensions. Et voilà les couleurs qui sont équidistantes de cette couleur-là par rapport à une maîtrise qui a été choisie, qui s'appelle la maîtrise de Stiles. Ce qui est très intéressant, c'est que parmi les gens qui ont proposé des métriques sur l'espace des couleurs, donc de faire de l'espace des couleurs un espace courbe, il y a des gens aussi célèbres que Schrödinger. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de voir que, je veux dire, donner une structure courbe à l'espace des couleurs a intéressé les plus grands physiciens. Et alors, la chose peut-être la plus amusante, c'est que la façon dont je suis tombé sur cette question est par l'intermédiaire d'un ami mathématicien, dont l'épouse est ingénieure chez Renault, et qui un jour arrive chez elle. C'est une femme dont le métier est de définir l'habitacle intérieur des voitures, donc de les habiller en particulier, et qui lui dit « j'ai besoin que tu me calcules des géodésiques dans l'espace des couleurs ». Donc mon collègue, qui est aussi géomètre, était un petit peu stupéfait de voir son épouse brusquement s'intéresser à la géométrie des espaces courbes. Et en fait, le problème qu'elle avait est un problème finalement assez banal, c'est qu'elle avait, pour des raisons liées aux matériaux, deux couleurs bien définies, elle voulait interpoler entre ces couleurs. Et une très bonne façon d'interpoler entre couleurs, si vous avez une notion de métrique, vous prenez le plus court chemin entre les deux couleurs que vous avez, et ensuite vous espacez les couleurs intermédiaires, et ça vous donne donc une façon de trouver des couleurs intermédiaires entre deux couleurs données. Un autre modèle qui a été extrêmement utile en physique, c'est dans la physique des défauts. Donc c'est ce que les physiciens aiment bien appeler les cristaux frustrés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on peut s'intéresser à des cristaux. Voilà un empilement de représentations atomiques qui sont un cristal parfaitement rangé. Mais tous les cristaux sont pas comme ça. Ils peuvent avoir des défauts de plusieurs sortes. Donc, il peut donc y avoir ce qu'on appelle des frustrations. Et alors, voilà une frustration. Je vais y arriver. Voilà une frustration où, brusquement, donc, on avait un rangement des atomes qui était extrêmement régulier, mais on peut aussi, vous voyez, il y a une flèche qui manque un tout petit peu, on peut brusquement, en fait, enlever il y a un atome qui devrait être à sa place, qui n'y est pas, et brusquement, les autres atomes viennent fermer l'espace. Donc, vous voyez, ce qui se rangeait très, très bien, quand je regardais à partir d'un atome, ses voisins, eh bien, brusquement, il y a un voisin qui manque. Vous voyez que les voisins, normalement, j'ai 6 voisins, et quand vous regardez le centre de ce point-là, enfin cette zone ici, en fait, il y a brusquement une zone où il y a moins de voisins qu'il devrait y avoir, donc on a enlevé une partie, et brusquement, vous trouvez un espace qui donne l'impression d'avoir une courbure positive, il ressemble un petit peu à la géométrie de la sphère. Et même chose dans le genre des frustrations, on peut avoir des frustrations, au contraire, où il y a un défaut supplémentaire qui vient d'arriver, et là, au contraire, par rapport à la disposition normale des atomes, on peut avoir, en fait, donc ça, c'est des images qui ont été prises quand on fait de la diffraction, on peut brusquement avoir en fait plus de voisins qu'on ne devrait avoir, et brusquement l'impression que ça donne, c'est vraiment l'impression d'avoir un espace à courbure négative. Et alors là, la chose que je voulais vous faire comparer, ce qui est quand même tout à fait étonnante, c'est la similitude avec Vasarely et donc la géométrie que je vous montrais tout à l'heure. Donc entre ces deux géométries de physique, d'atomes frustrés, et ces dessins proposés par Vasarely. Donc, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le dire beaucoup plus, c'est donc cette appropriation par les peintres des modèles de ce genre-là. Enfin, je voudrais terminer par les développements les plus récents. Et en fait, une des choses qui a vraiment dominé le XXe siècle dans les mathématiques, toutes les branches des mathématiques, ça a été en fait le passage du local au global. Vous avez vu que tous les dessins que j'ai faits jusqu'à maintenant, je m'intéressais à une zone déterminée d'une surface. Tout à l'heure, je me suis intéressé à un triangle qui était dans une partie d'une surface. Et moi, ce qui va m'intéresser brusquement, ça va être le passage du local au global. Donc, je m'intéressais à une surface dans sa globalité. Alors, j'ai deux surfaces avec moi, une qui n'est pas très originale en ce moment, qui est un ballon de football, et puis une autre surface que je vais vous fabriquer devant vous, qui est un tore que je démonte avant de le remonter. Donc pour moi, le tore, c'est très important que je le pense. Vous voyez qu'un tore, je peux partir d'une zone dans le plan, comme ça, et puis je peux paver le plan avec ces rectangles. Mais je peux maintenant identifier ce côté-là à ce côté-là, ce que le velcro me permet à peu près. Et ensuite, après, je peux identifier ce bord-là avec ce bord-là, ce que le velcro devrait me permettre encore. Donc voilà, donc j'ai fabriqué une chambre à air, c'est pas très extraordinaire, c'est un tore. Vous voyez qu'en tout cas, ce qui distingue le tore de la sphère, c'est qu'il y a un trou au milieu. Alors qu'ici, j'ai pas de trou. Alors l'objet qui va m'intéresser pour le relier aux espaces courbes, c'est ce qu'on appelle l'invariant d'Euler Poincaré des surfaces. Alors ça, c'est une chose qui a été pressentie par Euler, vraiment comprise dans le cadre de la topologie algébrique de Poincaré, qui est la chose suivante, c'est que quand on prend une surface, quelle qu'elle soit, le ballon de football, la sphère, donc, ou le tore, eh bien, quelle que soit la surface, toutes les fois qu'on dessine des polygones, quels qu'ils soient, donc je dessine des polygones sur la surface, et je m'amuse à faire le calcul suivant, donc j'ai pris une surface, S, je calcule le nombre de sommets qu'il y a sur cette surface, sur cette polygonalisation de la surface, je retranche le nombre d'arêtes, et je rajoute le nombre de polygones, le nombre de faces, j'ai envie de dire. Eh bien, ce nombre ne dépend pas des polygones que j'ai tracés sur la surface. Ça dépend que de la topologie de la surface. Donc en particulier, quand je prends la sphère, le ballon de football, eh bien je trouve toujours 2. Quand je prends le tore, je trouve toujours 0. Alors en fait, une des conséquences de ça, tout à fait amusante, c'est que, par exemple, ceci explique pourquoi dans les ballons de football, quand vous les regardez de loin, vous avez l'impression qu'ils n'ont que des hexagones. C'est des petits morceaux là de... pas du cuir, c'est du sky, qui sont cousus, mais il n'y a pas que des hexagones. Parce que si la sphère était recouverte que par des hexagones, quand vous faites ce calcul, vous trouvez toujours 0. Et ça, c'est impossible. Donc ça veut dire que dans le ballon de football, il y a sûrement autre chose que des hexagones. Alors quand vous regardez bien ce ballon, si vous voulez le regarder. Je crois qu'on m'a dit qu'il fallait, j'avais pas le droit de sortir de mon... Voilà. Donc il y a en fait un certain nombre de pentagones et un certain nombre d'hexagones. Je souhaite récupérer le ballon après pour mes petits-enfants. Merci. Et alors, l'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est que, voilà par contre sur la sphère, je vous ai dit que si je n'avais que des hexagones, je pouvais le faire. Voilà donc sur le tore maintenant. Je vous ai dit que le tore, ça s'obtenait à partir d'un rectangle dont j'identifiais, peut-être vaut mieux que je le mette comme ça, un rectangle ou un parallélogramme dont j'identifie deux côtés. Vous avez vu comment je l'ai fabriqué. Donc imaginez que vous prenez ce côté-là, vous l'identifiez à ce côté-là. C'est pour ça que j'ai mis un aux quatre coins, parce que ce n'est pas quatre points différents sur le tore, c'est le même point. Parce que je les recolle et je les recolle. Et de la même façon, une fois que j'ai fabriqué mon cylindre, en recollant ceci avec ceci, j'ai un cercle ici, j'ai un cercle là, et j'identifie ces deux cercles. Eh bien, vous voyez que là, j'ai un pavage du tore, uniquement par des hexagones. Eh bien, c'est possible, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas interdit. Et la chose extraordinaire, c'est par exemple, ça vous montre que, si vous vous intéressez au problème de la cartographie, vous savez que dans le plan, avec quatre couleurs, on colorie toutes les cartes. Eh bien, sur le tore, il faut au moins sept couleurs pour colorier les cartes, et en fait, sept suffisent. Et donc, voilà un pavage du tore qui exige de vous que vous utilisiez sept couleurs différentes, si vous ne voulez pas que deux éléments et des couleurs qui soient les mêmes. Vous voulez avoir pas de voisinage. Alors, quel est le lien avec la courbure? Et ça m'amène à ma conclusion. Bien, le lien avec la courbure, c'est la chose suivante. Je vais m'intéresser à des surfaces dans lesquelles je ne vais pas dessiner n'importe quel polygone. Je vais m'intéresser à des triangles. Donc, c'est ce qu'on appelle trianguler la surface. Donc, je vais dessiner sur ma surface rien que des triangles. Alors, vous vous souvenez que je vous avais dit tout à l'heure que quand je faisais la somme des angles d'un triangle, sur les surfaces, je trouvais pi, toujours, et un terme correctif. Vous vous souvenez que sur la sphère, le terme correctif, c'était plus la surface. Vous vous souvenez que sur l'espace hyperbolique, c'était moins une sorte de surface. Alors en fait, si vous vous souvenez ce que j'ai laissé entendre, à savoir que la sphère est un espace à courbure plus 1 et que l'espace hyperbolique est un espace à courbure moins 1, si vous faites rentrer le signe dedans, comme on dit, eh bien brusquement, en fait, le terme correctif, c'est juste la quantité de courbure qui est contenue dans le triangle. Autrement dit, la formule exacte est en fait cette formule qui dit que la somme des angles d'un triangle sur un espace courbe est toujours donnée à deux dimensions, une surface, est toujours donnée par pi plus l'intégrale de la courbure. Alors l'idée que ça donne, c'est de dire, je vais faire ça pour chaque triangle, et puis je vais ajouter tout. Et vous voyez bien, quand je fais cette somme, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, pour chaque... quand je vais faire la somme de tous ces... Je vais faire la somme sur tous les triangles, j'aurai évidemment, autour de chaque sommet, j'aurais pris tous les angles possibles. Donc j'aurais finalement, en faisant cette somme, 2π fois le nombre de sommets. Et puis, combien j'aurais de fois compté le nombre π? J'aurais autant de fois écrit π dans ce membre-là que j'aurais de triangles. Donc à droite, j'aurais π multiplié par le nombre de triangles. Ça sera plus commode que je le fasse passer de l'autre côté, donc en changeant son signe. Et puis finalement, qu'est-ce que j'aurais là? Là, j'avais toute la courbure qui était contenue dans ce triangle, mais quand je fais ça pour ce triangle, celui-là, 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 etc., sur tous les triangles qui recouvrent la surface, finalement, je trouve la quantité totale de courbure contenue sur la surface. Donc, on est arrivé à ce résultat extraordinaire que finalement, je suis capable de lier la géométrie, quelque chose de fondamental, la topologie, quelque chose de fondamentalement global, à la géométrie. Et donc, voilà la formule finale. C'est la chose suivante. Comme j'ai pris des triangles, il y a un lien entre le nombre des arêtes et le nombre des triangles. C'est facile à voir que le nombre d'arêtes est forcément 3,5 du nombre de triangles. Pourquoi? Parce que chaque triangle a 3 arêtes. C'est un triangle, c'est aussi un tricoté, un trilatère, comme vous voulez. Mais c'est aussi que chaque arête, elle appartient à 2 triangles. Donc je dois bien dire qu'il y a 3 fois plus qu'il y a de nombre de triangles, mais je dois diviser par 2 parce que chaque arête appartient à 2 triangles. Et du coup, si dans ma formule précédente, qui était la formule que j'avais obtenue en ajoutant toutes ces formules-là, si je remplace le nombre de triangles par ce qui m'a été là, en fait, je me retrouve, miraculeusement, en ayant dans le membre de gauche 2π que multiplie le nombre de sommets, je l'avais déjà, et puis en jouant sur les nombres de triangles, je me trouve le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de triangles. Donc, merveille, à gauche, j'ai ce fameux invariant de l'air Poincaré, qui est toujours un entier, et à droite, j'ai l'intégrale de la courbure. Donc on voit cette chose assez fantastique, que dans la géométrie d'une surface globale, eh bien, j'ai une quantité topologique qui me dit ce que vaut l'intégrale de la courbure. Et donc sur la sphère, ça me dit en particulier, puisque ce nombre vaut 2, ça vaut donc 4 pi. Donc quelle que soit la façon dont je courbe la sphère, alors vous pouvez y penser quand vous regardez le ballon, il a toujours une partie où il est à courbure positive. Même si je rentre dedans, je vais créer des zones à courbure négative, mais il y aura toujours la zone extérieure qui sera à courbure positive. Et en fait, du point de vue de l'intégrale, elle dominera toujours les autres zones. Sur le tore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tore, il est soit plat, donc c'est un morceau de l'espace euclidien, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit que le tore, on pouvait le voir comme une partie de l'espace euclidien, où j'identifiais des côtés, mais je peux le faire abstraitement, je ne suis pas obligé de le faire en faisant de la couture. Ou alors, il a forcément des courbures des deux signes. Et alors là, pour le coup, quand j'ai fait ma couture, on voit bien qu'il y a des zones du tore qui sont à courbure positive. Voilà. Un petit pas qui veut plus... Vous voyez, ça, c'est une zone qui est à courbure positive. Par contre, je suis à l'intérieur du tore, vous voyez bien que c'est des zones, au contraire, j'ai un cercle dans ce sens-là et un cercle dans l'autre. Donc, il y a des zones à courbure négative. Le maximum est positif et le minimum est négatif. Donc, ça, c'est complètement contenu là-dedans. Juste quand même pour vous dire que dans le XXe siècle, on a démontré des théorèmes importants qui ne se rapportent pas aux espaces à deux dimensions, mais à plus de dimensions. Je vous cite simplement deux théorèmes qui sont parmi les plus beaux de ce siècle en géométrie. Théorème de Marcel Berger et Wilhelm Klickenberg, qu'on appelle souvent le théorème du pincement, qui dit la chose suivante. Imaginez que vous vous intéressez à un espace à courbure et dont la courbure est comprise entre les nombres 1 et 1 quart. Donc il est partout à courbure positive, mais une courbure qui est comprise entre 1 et 1 quart. Donc, ce n'est pas forcément constant. Si c'était la courbure constante 1, je sais que ça serait une sphère. Mais ça varie entre 1 et 1 quart. Eh bien, en fait, cet espace, je ne sais rien de lui, si ce n'est cette hypothèse qu'en chaque point, sa courbure est dans cet intervalle que j'ai fixé. Eh bien, c'est automatiquement, du point de vue de la topologie, une sphère. À une petite nuance près, c'est que ça peut être un quotient de la sphère par l'identification des points antipodes. Et alors, la chose assez merveilleuse, c'est que la démonstration d'un tel théorème, ça se fait à coup de théorème de comparaison des triangles. Bon, donc on réutilise de la trigonométrie dans les espaces, des espaces courbes. Un autre théorème superbe, qui est un théorème dû à Jacques Adamard et Élie Cartan, qui est donc le théorème suivant, c'est que tout espace à courbure négative est revêtu, excusez-moi cette horrible faute d'orthographe, topologiquement par un espace euclidien. Autrement dit, la topologie d'un espace à courbure négative est extrêmement simple. C'est vraiment à peu près le dessin que je vous avais fait voir de Coxeter et Escher. Autrement dit, c'est vraiment quelque chose que je peux assembler comme un pavage d'un autre espace. Et alors, l'élargissement des concepts s'est produit récemment de façon considérable. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai parlé que de surface régulière. En fait, les mathématiciens se rendent compte que c'était fondamental d'avoir moins de régularité, donc d'avoir un nouveau cadre beaucoup plus souple, en particulier dans les travaux d'Alexandrov et de Gromov. On a seulement la notion de métrique, on en a absolument besoin. On a besoin des plus courts chemins, comme je vous les ai présentés, et on a besoin de contrôler la longueur des côtés des triangles. Et en fait, dans des espaces où on sait faire ces trois choses, même s'ils sont beaucoup plus compliqués que les surfaces habituelles, on sait faire encore de la géométrie des espaces courbes. Et donc, typiquement, on peut faire ça sur des graphes, et typiquement, on peut comprendre la géométrie, par exemple, du cyberespace, c'est une chose qui est tout à fait importante du point de vue de la redondance des connexions, à partir d'analyses géométriques, tout à fait celles des espaces courbes. Une autre chose qu'on peut comprendre aussi, que je montre sur ce dessin, qui est l'analyse de la croissance. Donc voilà un espace pour lequel on peut faire de la géométrie comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, qui ressemble étrangement à l'espace hyperbolique. Vous voyez que c'est un graphe dans lequel, toutes les fois que j'arrive à un sommet, je divise en deux, mais en deux segments qui ont une longueur moitié du précédent. Et si je continue ça, vous voyez que ça vous donne une image qui ressemble étrangement au dessin d'Escher tout à l'heure. C'est-à-dire, je m'en vais à l'infini, mais en plus en essayant une sorte d'explosion, de divergence exponentielle. Donc, mon dernier transparent sera une sorte de conclusion sur ce que j'ai essayé de vous montrer des mathématiques, à savoir, d'une part, que les mathématiques ont comme fonction de créer des concepts. Ce que j'ai essayé de vous raconter, c'est l'histoire de la création du concept de courbure. Les mathématiques sont ici un réservoir de modèles. Vous avez vu que ce soit les physiciens, que ce soit les informaticiens aujourd'hui avec les problèmes de réseau, que ce soit bientôt les biologistes avec les problèmes d'analyse génomique, ont besoin de modèles géométriques, et de modèles géométriques qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus compliqués. Mais les mathématiques sont aussi génératrices de questions. Vous avez vu quand même que tout ça est né de cette question un peu stupide de l'indépendance de l'axiome des parallèles d'Euclide Et les efforts de Gauss, c'était vraiment des efforts purement d'un savant, sans relation aucune avec le monde concret. Mais malgré tout, j'espère vous avoir montré quand même qu'elles étaient tout à fait vivantes dans la société et que le nombre de domaines dans lesquels ces modèles peuvent être utilisés sont extrêmement divers. Et donc, les mathématiques ne sont pas du tout coupées de la sollicitation qu'elles peuvent recevoir de la physique, de l'informatique ou de la biologie. Merci.
Bonjour. Une question en mathématiques et en histoire. En mathématiques, est-ce qu'on peut généraliser la caractéristique de l'air Poincaré aux variétés riemanniennes de dimension supérieure à 2? Et en histoire, lorsqu'à la Révolution française, on a défini le mètre en faisant des triangulations, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction puisque la courbure n'est pas nulle?
Très bonne question. Excellente question pour commencer. Donc d'abord, en ce qui concerne la caractéristique de l'air Poincaré, elle se définit dans toute dimension. Dans toutes les dimensions impaires, pour toutes les généralisations des surfaces, donc des espaces à 3, 5, 7, 9, 11, etc., dimensions, quand ces espaces sont des espaces donc compacts, fermés, comme ceux que j'ai regardés, comme la sphère, eh bien, automatiquement, la caractéristique de l'air est en fait nulle. Et on peut refaire la même construction que celle que j'ai faite. Évidemment, quand je vais me mettre dans un espace à 3 dimensions, je n'aurai pas seulement les sommets, les arêtes et les faces, mais je vais avoir aussi je vais plus avoir des triangles pour trianguler, je vais tétraédriser ma surface. Hein, je vais remplacer les triangles par ce qui est l'analogue du triangle à trois dimensions, qui est ce qu'on appelle, les mathématiciens appellent ça le simplex élémentaire, qui est le tétraèdre. Et quand je vais en dimension plus grande, j'ai l'analogue du tétraèdre qui va apparaître. Et donc à ce moment-là, je dois compter le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces moins le nombre de tétraèdres. Et alors là, la chose extraordinaire qui est due à Poincaré, qui est la superbe dualité de Poincaré, c'est qu'en fait, on a, vous voyez que vous avez un terme positif, un terme négatif, un terme positif, un terme négatif. En fait, deux par deux, ces termes se tuent. Autrement dit, le nombre de sommets et le nombre de tétraèdres sont égaux, et le nombre d'arêtes et le nombre de faces sont égaux. Autrement dit, cette somme vaut zéro, puisque terme à terme, les choses disparaissent. Donc en dimension impaire, c'est toujours nul. En dimension paire, on continue à définir la caractéristique de l'air par la même définition. Et la caractéristique de l'air de la sphère à toute dimension paire, est toujours 2. Et il continue à y avoir un théorème analogue à celui que j'ai dit. Simplement, vous avez vu que sur les surfaces, la formule que je donnais, c'était que la caractéristique de l'air Poincaré multipliée par 2π valait l'intégrale de la courbure. Si je mets dans le prochain espace où je peux faire un calcul analogue signifiant, qui est en dimension 4, la formule va être... Je ne sais plus quel est le coefficient, c'est plus 2π, mais je crois que c'est 16π carré, mais je n'en suis plus tout à fait sûr. Non, ça doit être 8π, pardon, fois la caractéristique de l'air Poincaré est égale à une quantité qui est quadratique dans la courbure. Donc autrement dit, je vais prendre la courbure, je vais la multiplier par elle-même d'une façon bien définie, et donc j'ai toujours ce phénomène extraordinaire qui relie la géométrie locale qui est donnée par la courbure en chaque point, à condition de l'intégrer sur toute la surface, à une quantité qui est complètement liée à la topologie. Et donc, toutes ces théories de ce genre, qui relient des nombres topologiques à des quantités de courbure, sont ce qu'on appelle les formules liées aux classes caractéristiques, ce qu'on appelle la théorie de Chern-Weyl, du nom de André Weyl, mathématicien français. Xingchen Chern est un mathématicien chinois, toujours vivant. André Weyl est décédé récemment. C'était le frère de Simone Weil, la philosophe bien connue. Donc ces choses continuent à se généraliser, et ça a été fait pendant ce siècle, et la découverte de ce qu'on appelle donc, cette théorie de Chern-Weil s'est faite dans la fin des années 1930, et Chern et Weil étaient tous les deux professeurs à Chicago pendant les années de la guerre, ou juste après la guerre. Pardon. Deuxième point, donc, qui est le point que vous me posiez la question, excusez-moi, par rapport à... Ah oui, la mesure du mètre. Alors en fait, vous mettez le doigt sur une chose tout à fait utile. Ce que je n'ai pas dit de Gauss, c'est qu'il a en partie gagné sa vie en étant, je ne sais pas comment je dois dire, géodésien, un professionnel de la géodésie. Et en fait, il a développé cette théorie, la théorie là de l'article que j'ai montré, la discussion sur les courbes tracées sur les surfaces. En fait, il discute très très précisément, après avoir fait des mesures de géodésie tout à fait importantes, en Allemagne. Il a pu, et d'ailleurs on a utilisé des travaux de Gauss ou d'autres mathématiciens comme Meunier dans la théorie pour fabriquer, justement, définir le mètre. Il a justement détecté, par le fait que les défauts qu'il pouvait détecter comme R n'étaient pas exactement ce qu'on pouvait mesurer si la Terre était sphérique. Donc, par exemple, dans Gauss, il y a explicitement une estimation du caractère ovaloïde de la sphère. Autrement dit, le fait qu'elle soit aplatie au pôle est une chose qu'on peut évaluer à partir des mesures qu'on fait directement en faisant de la géodésie entre sommets de montagne, travailler dans des sommets de montagne en Allemagne. Donc, non seulement votre question est pertinente, mais même historiquement, elle a joué un rôle très important dans la naissance de cette théorie. Autrement dit, le fait que Gauss était intéressé à la géodésie est directement lié à son travail de mathématicien. Donc ça, c'est un exemple que j'aurais pu citer spontanément dans ma conférence.
Monsieur.
On a une notion intuitive, vraie ou fausse, qu'un espace, c'est composé de points. Dans la géométrie euclidienne, pas de problème. On peut tracer des coordonnées et un point est déterminé par les coordonnées de ce point, parfaitement. Est-ce qu'il en est de même dans les autres géométries? Et est-ce qu'on peut calculer la position de ce point, si on peut considérer qu'il a une position objective, est-ce qu'on peut calculer la position de ce point dans la géométrie euclidienne, quand on a les coordonnées de la géométrie euclidienne par rapport à une géométrie non euclidienne?
Alors, toutes les géométries que j'ai développées jusque presque à la fin sont des géométries qui sont directement liées, comme je l'ai dit, à des espaces très lisses. Et ce qui caractérise ces espaces, très, très lisses, c'est ce qui caractérise ces espaces lisses, justement, c'est le fait qu'on puisse mettre des coordonnées dessus et que tous les calculs se font en coordonnées. Donc, les quelques formules que j'avais écrites, à un moment, j'ai écrit petit g égale gij dxi dxj, donc ça veut dire vraiment un calcul où je calcule tout en coordonnées. Donc pour opérer, pour faire tous les calculs, on se sert toujours des coordonnées comme d'habitude. La seule chose qui change, c'est que dans la géométrie euclidienne, je vais y arriver, dans la géométrie euclidienne, les coefficients de la métrique sont des constantes, alors que dans la géométrie riemannienne, ces coefficients sont variables. Donc c'est cette fameuse formule. Donc ça veut dire que j'ai encore pris des coordonnées locales, qui étaient comme les coordonnées habituelles en géométrie euclidienne. Mais si j'avais une métrique euclidienne repérée par rapport à des coordonnées cartésiennes, les coefficients que je mettrais là seraient des constantes. Et le fait que ces coefficients deviennent des variables, des fonctions des coordonnées, c'est ça qui crée le fait que l'espace est courbé. Alors, ça, c'est une chose qui était d'une certaine façon bien connue des astronomes, mais quand ils faisaient de la géométrie sphérique et qu'ils repéraient les étoiles dans le ciel, ils les repéraient par latitude, longitude, donc des coordonnées qui sont les coordonnées sur la sphère. Et donc, sur la sphère, on fait un calcul en coordonnées aussi bien qu'on le fait dans le plan. Donc, tous ces espaces-là sont susceptibles d'être, repérés par rapport à des repères. La seule chose qui rend les calculs évidemment beaucoup plus complexes, c'est le fait que tout ça devienne des fonctions et que les fameux coefficients gamma IJK que j'ai écrits tout à l'heure sont des expressions très barbares de GIJ, mais qu'on maîtrise, on peut les mettre dans une machine, on les fait calculer, etc. Donc, si vous voulez, du point de vue des outils conceptuels, ces outils conceptuels ne sont pas très différents, c'est toujours du calcul différentiel, c'est toujours des outils conceptuels pas très différents de ceux qu'on a développés pour étudier la théorie des courbes dans le plan. On peut avoir vraiment des outils complètement analogues. La chose qui est conceptuellement plus difficile, c'est donc, on a eu besoin pour ça de ce qu'on appelle le calcul tensoriel, qui a été développé à la fin du 19e siècle, c'est vraiment ce concept de tenseur de Riemann-Christoffel, que Riemann a découvert de façon absolument merveilleuse, sans d'ailleurs donner dans son texte de 1854 aucune formule. On en trouve des formules dans un article qu'il a soumis à un concours de l'Académie des sciences de Paris pour étudier justement le mouvement, typiquement la façon dont les sons se propagent à l'intérieur de l'oreille. Donc il s'intéressait à une mécanique de l'oreille et donc il a soumis un concours, donc des calculs où il montre explicitement comment il fait les calculs. Mais dans ce petit texte que j'ai marqué sur les hypothèses sur lesquelles est fondée la géométrie, il n'y a pas ces calculs. Il y a la réponse qui est juste, donc il n'y a pas de doute qu'il a fait le calcul, mais il n'y avait pas... Donc là, le concept de tenseur de Riemann-Christoffel est conceptuellement un autre monde par rapport au monde plat. Et ça, c'est une complication supplémentaire, substantielle.
Madame.
J'ai cru comprendre certaines formules, Mais l'ensemble, ça m'a donné un peu mal à la tête et j'ai trouvé que vous étiez très fort. Alors moi, je vais être très pratique. Quand vous avez parlé des étoiles massives qui dévient la lumière, est-ce que vous vouliez parler des vents solaires ? C'est-à-dire que des particules chargées qui viennent des rayons lumineux qui vont dévier les autres particules chargées de l'atmosphère. Comme dans les étoiles filantes, le prolongement de l'étoile filante est dévié par ces vents solaires.
Alors, pour répondre très précisément à votre question, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les particules dont la lumière, comme vous savez, on peut la voir comme un phénomène de rayonnement, on peut le voir aussi comme un phénomène corpusculaire, comme les physiciens nous ont appris à le faire, qui sont donc des photons. Les photons sont des particules non chargées. Donc le phénomène dont je voulais parler est un phénomène qui est purement lié au fait que, à cause de la présence du Soleil, l'espace au voisinage du Soleil n'est pas un espace plat, et donc les plus courts chemins ne sont pas des droites. Les plus courts chemins sont des courbes qui sont déviées comme si le Soleil déviait la trajectoire. Et donc ça, ce n'est pas un phénomène d'attraction électrique, c'est un phénomène que la présence du Soleil et sa présence massive, le fait qu'il ait une masse, a comme effet de changer la notion de plus court chemin au voisinage du Soleil. Donc les rayons lumineux continuent à se promener en suivant le plus court chemin, mais le plus court chemin n'est pas une droite. Donc par rapport à la direction qu'on avait repérée sans que le Soleil soit là, où ils arrivaient pratiquement en ligne droite, quand le Soleil est là, brusquement, il leur fait faire l'effet dévié. Et donc c'est ça dont je voulais parler. Donc il n'y a pas de phénomène électrique, au sens, de particules chargées déviées par, je ne sais pas quoi, d'ionisé qui serait autour du Soleil. C'est purement un phénomène gravitationnel, et donc c'est un phénomène dans lequel la masse du Soleil change la géométrie en son voisinage.
Ma question est la suivante. Concernant les satellites interplanétaires, quelles sont les équations qui peuvent être employées pour résoudre le problème de la direction à prendre?
Alors, si vous voulez, le problème des satellites, d'une certaine façon, est un problème qui se résout tout à fait bien à un certain niveau d'approximation dans la théorie newtonienne de la gravitation. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à des raffinements relativistes pour pratiquement tout ce que font les satellites artificiels. Et donc, par contre, un exemple où on peut montrer la nécessité d'utiliser des corrections relativistes dans des phénomènes où on ne s'y attendrait pas, c'est une chose qui est peut-être en bas d'un de mes transparents, mais je ne l'ai pas mentionné dessus, c'est ce qui s'appelle GPS, Global Positioning System, qui est un système donc, qui vous permet, avec un boîtier, de recevoir des ondes émises par des satellites qui tournent toujours autour de la Terre, je crois que c'est 24, quelque chose comme ça, donc vous avez toujours un certain nombre qui sont accessibles pour vous, donc vous recevez ces signaux. Et donc si on aborde la chose en géométrie traditionnelle, donc en particulier en gravitation newtonienne, on se dit c'est un problème très bête. Si j'arrive à trouver la distance de mon boîtier au satellite, le satellite me communiquant sa position, en gros j'ai un problème d'intersection de trois sphères, parce que je sais le temps que le rayonnement a mis pour venir du satellite jusqu'à moi, je connais la position du satellite, je prends la sphère qui est là, je prends l'intersection de ces trois sphères, en fait je vais avoir deux points, mais il n'y en a qu'un qui sera sur la surface de la Terre, donc je trouverai ma position. Alors si vous faites ça, en fait d'ailleurs, on ne le fait pas avec trois, mais plutôt avec quatre pour des raisons de redondance de données pour caler les choses, mais en fait vous n'arrivez jamais à une précision qui est supérieure à celle de l'ordre du dizaine de mètres. Alors pour un certain nombre d'applications, c'est parfaitement suffisant. Si vous êtes un navigateur au milieu de l'Atlantique, connaître votre position à 10 mètres près, pas un problème. Mais imaginez que vous vouliez par exemple faire guider des voitures sur une autoroute avec ce système-là. 10 mètres près, ça devient un peu problématique. Et alors en fait, il y a un projet beaucoup plus ambitieux américain qui consiste à faire surveiller les plaques qui se chevauchent en Californie, donc qui provoquent, dans lesquelles le chevauchement provoque les tremblements de terre, justement avec des systèmes de GPS. Et à ce moment-là, ces plaques bougent de quelques millimètres par an. Si vous voulez faire quoi que ce soit d'utile, ce n'est pas la précision de l'ordre de 10 mètres qu'il vous faut, c'est une précision de l'ordre du millimètre. Et dans ce cas-là, il est absolument indispensable que vous intégriez dans votre petit boîtier qui va faire le calcul, des termes correctifs qui vont tenir compte de plusieurs effets qui se superposent. Un des effets, c'est l'effet que, évidemment, les horloges de ces satellites qui se tournent autour de la Terre, même si elles sont extrêmement précises, des horloges très chères au césium, etc., en fait, comme elles sont dans le champ de gravitation de la Terre, elles n'ont pas tout à fait elles sont affectées par le fait qu'elles sont dans le champ de gravitation de la Terre. Et donc déjà, il faut faire une correction disons, qui était déjà connu en relativité restreinte. Mais par contre, en fait, ça ne suffit encore pas pour atteindre 2 mm. Il faut introduire des corrections qui sont liées directement au fait que la présence de ces satellites au voisinage de la Terre modifie encore la trajectoire des rayons qui vous joignent et que quand vous mesurez la distance au satellite, vous avez en fait une erreur. Et donc, vous êtes obligé de faire en sorte que le petit boîtier a un terme, à son module qui fait le calcul, qui a un terme correctif qui vient tenir compte du fait que l'espace est courbé au voisinage de la Terre par le fait que la Terre a une masse et donc dévie les choses. Donc, je ne réponds pas tout à fait à votre question sur les satellites interplanétaires, mais pour vous dire que, typiquement, dans ces problèmes d'ultra-précision, qui est souvent utile, typiquement pour ce projet, connaître la précision de la plaque terrestre au millimètre est extrêmement important, eh bien, là, on est obligé d'introduire le fait extraordinaire, parce que c'est une théorie à la fois savante et compliquée, que l'espace au voisinage de la Terre n'est pas plat et qu'il faut tenir compte de sa courbure.
S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'une hypersphère et est-ce qu'il y a une géométrie particulière qui s'y attache ?
Excusez-moi, je ne vous ai pas repéré, ce qui est toujours derrière. Je vous ai vu, merci, excusez-moi. Alors, si vous voulez, les mathématiciens ont tendance à effectivement bien aimer se promener dans des espaces à plusieurs dimensions. Donc, comme le suggérait monsieur tout à l'heure, dans les espaces à plusieurs dimensions, on fait comme on fait quand on est à 2 dimensions ou à 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on prend des coordonnées et on calcule avec ces coordonnées. Alors, comment comprend-on une hypersphère, c'est-à-dire une sphère qui va vivre dans un espace à beaucoup de dimensions ? Donc, imaginons qu'on a un espace de dimension n plus 1, et puis on va avoir une sphère de dimension n, donc ça va être l'analogue de la sphère de dimension 2 qui vit dans l'espace à 3 dimensions, ou l'analogue du cercle que je vois comme une sphère dans l'espace à 2 dimensions, mais il a qu'une seule dimension, lui. Comment je repère le cercle dans le plan ? Dans le plan, je prends les coordonnées cartésiennes x, y, et qu'est-ce que c'est que le cercle ? C'est l'ensemble des points qui sont à distance 1 de l'origine, donc tout simplement, c'est l'ensemble des points tels que x2 plus y2 vaut 1. Quand je m'intéresse à la sphère dans l'espace à 3 dimensions, je vais faire la même chose, je vais prendre l'ensemble des points qui sont à distance 1 de l'origine, cette fois, je n'ai pas 2 coordonnées, mais 3 coordonnées, donc l'équation de la sphère à 3 dimensions, qui va être un objet à 2 dimensions, ça va être x2 plus y2 plus z2 égale 1, si mes coordonnées, j'appelle x, y, z. Et quand je me mets dans l'espace à n plus 1 dimension, je fais la même chose, je m'intéresse pour faire l'hypersphère qui va être L de dimension n, je vais m'intéresser à, tout simplement, l'ensemble des points à distance 1 de l'origine, je vais avoir n plus 1 coordonnée, et je vais prendre x1 carré plus x2 carré plus etc. plus xn plus 1 carré égale 1, et cette géométrie va être encore, si je m'intéresse maintenant à la notion de distance induite par le fait que je suis dans un grand espace euclidien Rn plus 1, je vais regarder la géométrie analogue à celle de ma géométrie de ma sphère ronde, la surface de la sphère dans l'espace à 3 dimensions, et je vais en fait trouver, par le même calcul, en fait le calcul est vraiment rigoureusement le même, que c'est encore un espace à courbure constante 1, qui a les mêmes phénomènes que j'avais dit tout à l'heure, que quand je pars du pôle nord, qui va être le point de coordonnées, toutes les coordonnées nulles de x1 jusqu'à xn et la dernière qui vaut 1, le pôle sud, ça va être au contraire tous les coordonnées nulles sauf la dernière qui vaut moins 1, eh bien, tous les plus courts chemins entre le pôle nord et le pôle sud, d'abord, il y a une infinité de plus courts chemins entre le pôle nord et le pôle sud, et c'est encore des grands cercles, c'est-à-dire l'intersection de mon hypersphère par des plans à 2 dimensions. Et donc, le phénomène que je vous ai dit tout à l'heure, que quelle que soit la direction dans laquelle je regardais à partir du pôle nord, je voyais partout le pôle sud, se produit exactement de la même façon. Donc, finalement, pour le traiter techniquement, l'hypersphère n'est pas plus difficile que la sphère ordinaire. Alors, bien entendu, plus vous avez de dimensions, plus les complications que vous pouvez avoir grandissent. Là, j'ai pris un espace qui était sympathique parce qu'il était, comme disent les mathématiciens, isotrope, c'est-à-dire que la sphère, elle est ronde, et comme que je la prenne, elle est ronde. Donc, je peux la prendre n'importe comment, elle ressemble à elle-même. Dès que vous avez un espace qui a des cabosses partout, plus vous avez de dimensions, plus il y a de soucis à se faire.
Bien, Jean-Pierre Morignon, merci.